Joris Karl Huysmans, La cathédrale, chapitre 15. Cette idée qui l'avait assaillie si tenacement pendant quelques minutes parut s'effacer, et le lendemain il ne lui resta que la surprise d'une sourde agitation que rien n'expliquait. Il haussait les épaules, mais, sourdement, au fond de lui, surgissait quand même une vague crainte. Cette idée n'était-elle pas, en raison même de son absurdité, l'un de ces pressentiments que l'on éprouve parfois, sans les comprendre? N'était-elle point aussi, à défaut d'un ordre clairement exprimé par une voix interne, un avis intérieur, un conseil direct et secret de s'observer, de ne pas considérer comme une simple partie de plaisir ce départ dans un cloître? Mais c'est impossible, finit par se crier Durtal. Quand je suis allé à la trappe pour y subir le grand lavage, je n'ai pas été harcelé par des appréhensions de ce genre. Quand j'y suis retourné plusieurs fois depuis pour me réviser, je n'ai jamais eu la pensée que je pourrais m'interner sérieusement dans un monastère. Et maintenant qu'il s'agit d'un bref séjour dans un couvent de bénédictins, voilà que je tremble, que je me cabre. Ce désarroi est puéril. Et, pas tant que cela, se dit-il soudain, en me rendant à Notre-Dame de l'Âtre, j'étais assuré de n'y pas permaner, puisque je n'aurais pu supporter plus d'un mois le dur régime. Je n'avais donc rien à craindre, tandis que dans une abbaye bénédictine, où la règle est plus complaisante, je ne suis pas certain de ne pouvoir m'y échouer. Dès lors, eh bien, tant mieux. Car enfin, il faudrait une bonne fois se délimiter, savoir ce qu'on a dans le ventre, s'assurer du plus ou moins de valeur de ses échéances, du plus ou moins d'énergie de ses aptitudes et de ses liens. Il y a quelques mois, j'aspirais à l'existence conventuelle, cela est sûr. Et aujourd'hui, je doute. J'ai des élans abortifs, des menées proditoires, des velléités qui ratent, des souhaits qui tournent court. Je veux et je ne veux pas. Il serait pourtant nécessaire de s'entendre. Mais à quoi cela sert-il de se faire le puisatier de son âme? Car j'ai beau descendre dans la mienne, je n'y découvre que le vide obscur et que le froid. Je commence à croire qu'à force de scruter ces ténèbres, je deviens ainsi que l'enfant qui fixe avec des yeux ouverts dans la nuit le noir. Je finis par me créer des fantômes, par me forger des paniques. C'est bien le cas pour cette excursion à Solesmes, car rien, absolument rien, ne peut justifier mes transes. Que tout cela est bête, et ce qu'il serait plus simple de se laisser vivre, et surtout de se laisser conduire. J'y suis, fit-il après réflexion, la cause de ces brigues est claire. C'est mon manque d'abandon, mon défaut de confiance envers Dieu, et aussi mon peu d'amour qui m'ont mis dans un état pareil. À la longue, ces malaises ont engendré la maladie dont je souffre. Une anémie profonde d'âme, aggravée par la peur du malade, qui, n'ignorant pas la nature de son affection, l'exagère. Tel est mon bilan depuis que je réside à Chartres. Cette situation est-elle bien différente de celle que je connus à Paris? Oui, car cette phase que je traverse est absolument le contraire de celle que je vécus jadis. À Paris, j'avais l'âme non pas aride et friable, mais molle et humide. Elle se saponifiait, on enfonçait dedans. Je me fondais en somme, dans un état de langueur plus pénible peut-être que cet état de sécheresse où je me racornis. Mais à y regarder de près, si les symptômes ont changé, le mal n'en persiste pas moins. Qu'il y ait langueur ou cécité, le résultat est identique. Seulement, n'est-il pas étrange que cette anémie spirituelle se traduise maintenant par des signes contradictoires? D'une part, en effet, j'éprouve une fatigue, une défection, un ennui de la prière qui me paraît inane et creuse. Tant je la récite mal, une envie d'envoyer tout promener, de me taire, d'attendre un retour de ferveur que je n'espère point. Et de l'autre, je sens au même moment un travail sourd et têtu, une touche invisible, un besoin de prier, un rappel incessant de Dieu me tenant en haleine. Il y a des instants aussi où, tout en croyant me rendre compte que je ne bouge pas, il me semble que je m'ébranle et que je vais être emporté à la dérive. Oui, c'est presque cela, dans cette condition d'esprit à la fois casanière et nomade, que je m'avise de lire une œuvre de haute mystique, Sainte Thérèse ou Saint Angèle, alors la touche si subtile se précise. Je perçois des élans qui m'ameutent, je me figure que mon âme a recouvré la santé, qu'elle rajeunit, qu'elle respire. Et si je veux profiter de cette éclaircie pour me réunir et pour prier, tout s'arrête. Je me fuis et rien ne va. Quelle misère et quelle pitié! L'abbé Gévresin m'a dirigé comment jusqu'ici? Il a surtout employé la méthode expectante, se bornant moins à combattre les accidents qu'à lutter contre ma faiblesse générale, qu'à me réconforter. Il m'a prescrit les médications martiales de l'âme, m'ordonnant de communier lorsqu'il me voyait faiblir. Aujourd'hui, si je table juste, il change ses batteries de place, ou il abandonne une tactique qui n'a pas réussi, ou bien au contraire, il la perfectionne. Son traitement ayant, sans que je m'en sois douté, produit les effets qu'il désirait attendre. Et dans l'un et l'autre cas, Il veut, pour activer ou pour compléter la cure, m'envoyer dans un cloître. Ce système paraît au reste faire partie de sa thérapeutique, car c'est ainsi qu'il s'y est pris lorsqu'il m'aidait à me convertir. Il m'a dépêché dans une station thermale d'âme aux eaux énergiques, terribles. Maintenant, il ne juge plus nécessaire de m'infliger un pareil traitement, et il m'engage à séjourner dans un lieu plus reposant, dans un air moins vif. Est-ce cela ? Il n'est pas jusqu'à sa manière de vous saisir à l'improviste et de vous asséner brusquement sa décision qui ne soit la même. Cette fois-ci, ce n'est point lui qui s'est chargé de réduire mes incertitudes en me notifiant mon départ pour Solheim, mais c'est tout comme. Car enfin, il y a dans cette histoire quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi l'abbé Plon a-t-il promis au bénédictin de m'amener avec lui ? Il a certainement agi sur la demande de l'abbé Gévreusin. Il n'y avait nul motif autrement pour qu'il causât de moi avec les pères. Je lui ai bien, il est vrai, parlé de mes ennuis, de mes vagues envies de retraite, de mon affection pour les monastères, mais je ne l'ai pas incité à marcher ainsi de l'avant, à précipiter ainsi brusquement les choses. Allons, me voici encore à imaginer des stratégies, à chercher midi à 14 heures, à découvrir des intentions, là où il n'y en a peut-être point. Et puis quand même il y en aurait. Est-ce que ce n'est pas dans mon intérêt que ces braves amis complotent ? Je n'ai qu'à les écouter et à leur obéir. Voyons, laissons cela et revenons à notre bestiaire, car le temps passe et je veux avoir terminé ce travail avant de décamper. Et à l'affût devant la cathédrale, il examina le portail du sud qui renfermait la zoologie mystique et les diableries. Mais il n'aperçut pas les formes extravagantes qu'il rêvait. À Chartres, les vertus et les vices n'étaient pas annoncées par des animaux plus ou moins chimériques, mais bien par des figures humaines. En explorant avec soin, il dénicha sur des piliers de la baie du milieu des péchés incarnés et de minuscules groupes. La luxure notée par une femme qui caresse un jeune homme, l'ivrognerie par un manant qui s'apprête à souffleter un évêque, la discorde par un mari qui se querelle avec sa femme, tandis que gisent auprès d'eux une quenouille brisée et une bouteille vide. En fait de bêtes infernales, tout au plus en se décarcassant le col, discernait-il dans la baie de droite deux dragons, l'un exorcisé par un moine, l'autre bridé avec une étole par un saint. En fait de bêtes divines, il distinguait dans la série des vertus des femmes qu'à côté des animaux symboliques, la docilité accompagnée par un bœuf, la chasteté par un phénix, la charité par une brebis, la douceur par un agneau, la force par un lion, la tempérance par un chameau. Pourquoi le phénix signifie-t-il ici la chasteté ? Car il n'est généralement pas chargé de cet emploi par les volucraires du Moyen-Âge. Et un peu dépité par l'indigence de la faune chartraine, il se consola en inspectant le porche du sud. Il servait de pendant à celui du nord et répétait avec une variante le sujet du portail royal, la glorification du Christ, mais alors dans ses fonctions de juge suprême et dans la personne de ses saints. Commencé à l'époque de Philippe Auguste et au frais du comte de Dreux et d'Alix de Bretagne, son épouse, ce porche qui n'avait été terminé que sous le règne de Philippe le Bel se divisait, ainsi que les deux autres, en trois parties. Une baie médiane, racontant sur son tympan en ogive la scène du jugement dernier, puis une baie à gauche, consacrée aux martyrs, enfin à droite, dédiée aux confesseurs. La baie centrale imitait la forme d'une barque, dressée debout, la poupe en bas et la proue en l'air. Ses flancs évasés apostés, sur leurs cloisons, six apôtres, de chaque côté. Et le fond était occupé, au milieu, par une belle statue, celle du Christ. Cette statue était, de même que celle d'Amiens, célèbre. Tous les guides vantaient la régularité de la physionomie, l'ordonnance calme des traits. La vérité, c'est qu'elle était surtout fade et rigide, d'une beauté sans désennui. Ce qu'elle était inférieure à celle du Christ du XIIe siècle. Du Dieu si expressif, si vivant, assis entre les bêtes du tétramorphe, dans le tympan de la façade royale. Les apôtres étaient mieux débrouillés, moins mastoques peut-être que les patriarches et les prophètes installés auprès de Sainte-Anne sous le porche nord. Mais leur saveur d'art était moindre. Ils étaient, comme le Jésus qui les entourait, d'une venue honnête. C'était de la sculpture probe, flegmatique si l'on peut dire. Ils tenaient placides les instruments de leurs martyrs, tels que des soldats leurs fusils, au port d'armes. Sur la paroi de droite, gîtait Saint-Pierre, arborant la croix sur laquelle il fut attaché, la tête en bas. Saint-André, une croix latine, et non les traverses en forme d'X, sur lesquelles on le cloua. Puis Saint-Philippe, Saint-Thomas, Saint-Matthieu, Saint-Simon, armés tous d'un glaive, bien que Saint-Philippe ait été crucifié et lapidé, Saint-Thomas percé d'un coup de lance et Saint-Simon scié. Sur la paroi de gauche habitait Saint-Paul, substitué à Saint-Mathias, le successeur de Judas. Il exhibait une épée. Puis Saint-Jean, son évangile. Jacques le Majeur, un glaive, Jacques le Mineur, une massue de foulon, Saint Barthélemy, le coutelas, avec lequel on l'écorcha, et Saint Jude, un livre. huchés sur des colonnes torses, ils pressaient sous leurs pieds, restés nus, en signe d'apostolat, les bourreaux de leur supplice. Ils avaient des cheveux longs et diffus, des barbes bifides, taillées en fourche, hormis le Saint-Jean imberbe et Saint-Paul qui, selon la tradition, était chauve. Et ils étaient tous vêtus de même, drapés dans des manteaux à plis, ménagés en d'adroites ondes. Seul Jacques le Majeur se dénonçait par une panetière semée de coquillages, pareille à celle des pèlerins qui le visitaient à Compostelle, dans un des grands sanctuaires édifiant en son honneur, au Moyen-Âge. Il était le saint vénéré de l'Espagne, mais a-t-il jamais évangélisé ses contrées, ainsi que l'attestent saint Jérôme, saint Isidore et le bréviaire de Tolède? D'aucuns en doutent. En tout cas, au XIIIe siècle, son histoire narrée par Durandemande se résumait en ceci. Envoyé dans ce pays pour convertir les idolâtres, il échoua dans cette mission et regagna Jérusalem où Hérode le fit décapiter. Son cadavre fut ensuite transporté en Espagne et ses reliques y opérèrent ses conversions qu'il n'avait pu effectuer de son vivant. D'ailleurs, songea Durtal, nous sommes singulièrement peu renseignés sur les apôtres. Presque tous n'apparaissent qu'à la cantonade dans les évangiles, et sauf quelques-uns comme Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Paul, dont les silhouettes parfois se déterminent, les autres flottent à l'état d'ombre, passent en quelque sorte voilés dans ce halo de lumière qu'épand autour de lui le Christ. Et après sa mort, ils s'effument davantage encore, et leur existence n'est plus délinéée que par de vagues légendes. Tel saint Thomas, le trésor de Dieu, ainsi que le qualifie sainte Brigitte. Où est-il né? On l'ignore. Quelles furent les circonstances et les motifs de sa vocation? Nul ne le sait. Dans quel pays prêcha-t-il la religion nouvelle? Les discussions commencent. Les uns le signalent chez les Mèdes, chez les Parthes, chez les Perses, dans l'Éthiopie, les autres dans l'Indostan. On le spécifie généralement par une équerre et une règle, car l'on assure qu'il construisit une église à Méliapour. C'est pourquoi il fut au Moyen-Âge le patron des architectes et des maçons. Selon le bréviaire romain, il fut tué à Calamine, d'un coup de lance. Selon la légende dorée, il fut trucidé à coups d'épée dans une région mal définie, et les Portugais prétendent que son corps leur appartient, à Goa, le chef-lieu de leur possession, dans les Indes. Au XIIIe siècle, ce saint était le type têtu de la méfiance. Non content de n'avoir reconnu le Christ, que lorsqu'il l'eut vu et enfoncé ses doigts dans les plaies, il se montra, si l'on en croit nos pères, aussi incrédule lorsqu'on lui apprit l'Assomption de la Vierge, et Marie dut venir et lui jeter sa ceinture pour le convaincre. Saint Barthélemy s'efface, encore plus obscur, dans l'ombre amoncelée des âges. Il était le mieux élevé des apôtres, dit la sœur Émeric, car les autres, Pierre et André surtout, avaient conservé de leurs basses origines des mines sans apprêt et des dehors brusques. S'appelle-t-il Barthélemy? On le pense. Les synoptiques le comptent au nombre des apôtres et saint Jean Lomé. Par contre, il désigne à sa place un homme du nom de Nathanaël, dont les trois autres évangiles ne parlent point. Y a-t-il dès lors identité entre ces deux apôtres? Cela paraît à peu près sûr, et saint Bernard présume que ce Barthélemy, ou ce Nathanaël, était l'époux des noces de Cana. Quelle fut son existence? Il aurait parcouru l'Arabie, la Perse, l'Abyssinie, aurait baptisé les Ibères, les peuplades du Caucase, et ainsi que saint Thomas, les Indes, mais aucun document authentique ne le prouve. Suivant les uns, il aurait été décollé, d'après les autres, il aurait été écorché vif, puis crucifié à Alban, près de la frontière de l'Arménie. Cette dernière opinion, qu'adopta le bréviaire romain, a prévalu. Aussi fut-il choisi pour patron par les bouchers qui écorchent les bêtes, par les magiciers, les possiers, les cordonniers, les relieurs qui travaillent le cuir, voire même par les tailleurs, car les primitifs le peignent excorié d'une moitié du corps et tenant sa peau sur son bras comme un habit. Plus étrange et plus confus encore est saint Jude. Il s'appelait également Thaddée et Lébé, et était fils de Cléophas et de Marie, sœur de la Vierge. Il fut, dit-on, marié, et il eut des enfants. Les évangiles le citent à peine, mais insistent pour qu'on ne le confonde pas avec Judas, ce qui eut lieu du reste. Et à cause même de sa similitude de nom avec le traître, pendant le Moyen-Âge, les chrétiens le renient et les sorciers l'implorent. Il se tait dans les livres saints, ne sort de son mutisme que pour poser pendant la réunion de la scène une question au Christ, sur la prédestination, et Jésus répond à côté, ou pour mieux dire, ne lui répond pas. Il est aussi l'auteur d'une épître canonique dans laquelle il semble s'être inspiré de la deuxième missive de saint Pierre et, selon saint Augustin, ce fut lui qui inséra le dogme de la résurrection de la chair dans le credo. Il est associé à saint Simon dans les légendes. Suivant le bréviaire, il aurait évangélisé la Mésopotamie et subi avec son compagnon le martyr en Perse. De leur côté, les bollandistes narrent qu'il fut l'apôtre de l'Arabie et de l'Idumée, tandis que le ménologe grec raconte qu'il fut en Arménie tué par les infidèles à coups de flèche. En somme, tous ces renseignements fascinent et l'iconographie ajoute à ce désarroi en assignant à Jude les attributs les plus divers. Tantôt, en effet, il tient une palme, comme à Amiens, ou un livre, comme à Chartres. Tantôt, il porte une croix, une équerre, un bateau, un bâton, une hache, une scie, une hallebarde. Enfin, malgré le déplorable renom que lui vaut son homonyme Judas, les lapidaires du Moyen-Âge le qualifient d'homme de charité et d'ardeur et le symbolisent dans les feux d'or et de pourpre de la chrysoprase, emblème des bonnes œuvres. Tout cela est très peu cohérent, se dit Durtal. Ce qui me paraît bizarre aussi, c'est que ce saint si chichement invoqué par nos pères, qui ne lui dédièrent pendant longtemps aucun autel, possède deux de ses effigies à Chartres, en admettant que le Verlaine du portail royal le représente, ce qui devient dès lors bien improbable. « Ce que je voudrais savoir maintenant, reprit-il, c'est pourquoi les historiens de la cathédrale proclament en chœur que la scène du jugement dernier, sculptée sur le tympan de la porte, est la plus extraordinaire de ce genre qui soit en France. Rien n'est plus faux, car elle est très vulgaire, très inférieure en tout cas à beaucoup d'autres. La partie démoniaque y est, en effet, moins tumultueuse, plus indolente, moins dense que dans les basiliques de la même époque. Sans doute à Chartres, ces démons à mâchoire de loup et à oreilles d'âne, refoulant des évêques et des rois, des laïcs et des moines vers une gueule de dragon qui crache des flammes, ces diables à barbiche de chèvre et à bouches échancrées, en croissant, qui s'emparent de pêcheurs épars sur les cordons des voussures, sont expertement agencés, disposés autour du sujet principal, en d'habiles grappes. Mais ce vignoble satanique manque d'ampleur, et ses fruits sont fades, ses prédateurs sont trop peu féroces, ils ont presque l'air d'être en goguette et déguisés, et les damnés sont calmes. Il est autrement exaspéré le festival diabolique de Dijon, et Durtal se rappelait la Notre-Dame de cette ville, ce spécimen si étrange du gothique du XIIIe siècle, du siècle bourguignon en France. Cette église était d'une simplicité presque enfantine, elle haussait au-dessus de ses trois porches un mur droit creusé de deux étages d'arcature, formant galerie et surmonté de figures grotesques. À droite de la façade se dressait une tourelle coiffée d'un bonnet pointu, puis, à côté, sur le toit, se découpait la ferraille en claire-voie d'un jacquemart muni de trois poupées frappant les heures. En arrière, au-dessus du transept, sortait une petite tour flanquée à sa base de quatre clochetons vitrés, et c'était tout. Ce monument minuscule, si on le compare à de grandes cathédrales, était marqué de l'étampe flamande. Il en avait le côté paysan et bonhomme et la foi gaie. C'était un sanctuaire sans façon, bien peuple. L'on avait dû s'y entretenir avec la Vierge Noire encore debout sur un autel, de ses petites affaires. L'on avait dû y vivre, y prier à la bonne flanquette, ainsi que chez soi, sans gêne. Mais il ne fallait pas se fier à l'aspect bénin et réjoui de cet édifice, car les rangées de grotesques courant au-dessus du porche et au-dessus des arcatures démentaient la sécurité joviale des alentours. Ils étaient là, réparés, il est vrai, ou refaits, grimaçant en des lignes serrées, jaillissant de la pierre en un pêle-mêle de religieuses démentes et de moines fous, de terriens ahuris et de villageoises cocasses, de coquebins tordus par un rire nerveux et de diables hilares. Et au milieu de cette horde de réprouvés hurlants, hors des murs, surgissait entre deux démons qui la tourmentaient, une figure réelle de femme, s'élançant de la frise, tentant de se ruer sur vous. Les yeux dilatés, hagards, les mains jointes, elle vous supplie terrifiée, désigne le lieu saint et vos cris d'entrée. Et l'on s'arrête, interdit, devant ce visage décomposé par la peur, crispé par l'angoisse, qui se débat dans cette meute de monstres, dans ces visions irritées de larve. Farouche et charitable à la fois, elle menace et elle implore. Et cette image d'une éternelle excommuniée, chassée du temple et reléguée à jamais sur son seuil, vous hante comme un souvenir de douleur, comme un cauchemar d'effroi. Non, à coup sûr, il n'existe dans la ménagerie satanique de la Bosse aucune statue dont l'art soit aussi incisif et aussi formel. À un autre point de vue, au point de vue de l'ensemble du tableau et de l'envergure du sujet, le pèsement des âmes de Notre-Dame de Chartres est aussi très au-dessous de la psychostasie de la cathédrale de Bourges. Je crois bien d'ailleurs que celle-là est la plus extraordinaire de toutes, se dit Durtal. Ni les scènes similaires de Reims et de Paris, avec leurs troupes de pêcheurs enveloppées dans une chaîne que tirent des démons, ni les épisodes analogues d'Amiens n'ont cet empan. À Bourges, de même que dans toutes les œuvres semblables du Moyen-Âge, les trépassés s'échappent de leurs tombes et au bandeau supérieur sous un Christ que conjurent la Vierge et Saint-Jean, Saint-Michel les pèse. À sa gauche, les démons entraînent les uns et à sa droite, les anges emmènent les autres. La résurrection des morts, telle que l'imagée du Berry la sculpta, est à faire hennir la bruyante pudeur des catholiques. Car les figures sont nues et certaines réticences consenties d'habitude, cependant pour le corps féminin, sont omises. Hommes, femmes soulèvent la pierre du sépulcre, enjambent le rebord des bières, bondissent, culbutent les uns par-dessus les autres. Ceux-ci, joignant extasiés les mains et priant les yeux au ciel, ceux-là, inquiets, regardant de tous les côtés. D'autres braillant d'épouvante et tendant les bras, d'autres encore prenant des poses éplorées, se frappant la poitrine, geignant pour leur défense. D'autres enfin, éblouis par ce passage de l'ombre à la lumière, secouant leurs membres gourds, cherchent à se mouvoir. Le tohu-bohu de ces êtres subitement réveillés, jetés tels que des hiboux en plein jour, tremblant de peur et de joie dès qu'ils se reconnaissent et comprennent que l'heure du jugement est venue, est exprimé avec une autorité, une verve, une acuité d'observation qui laisse loin derrière elle les minimes remarques et le modique entrain du sculpteur de la bosse. Et dans le compartiment au-dessus, le pèsement des âmes se déroule, magnifique, avec le Saint-Michel aux ailes déployées, tenant une lourde balance et caressant en souriant un enfant qui croise les mains, tandis qu'un diable à tête de bouc et à rictus de faune, armé d'une fourche, le guette, prêt à s'en emparer si l'archange le quitte. Et derrière ce démon qui s'attarde, commence le lamentable défilé des ouailles. Ici ce n'est plus la courtoisie infernale gardée à Chartres, les vagues égards d'un esprit du mal, poussant doucement devant lui une moniale, mais bien la brutalité dans toute son horreur, l'ignoble violence. Le côté parfois comique de ce genre de rixe n'est plus. À Bourges, les servants du Trébat travaillent pour de bon et cognent. Ici, un diable, aux mufles de fauve, dont le ventre bedonnant est une trogne, frappe le crâne d'un malheureux qui se débat en grinçant des dents, et lui mord les jambes avec sa queue dont l'extrémité s'ouvre en mâchoire de serpent. Là un autre, bourreau, hirsute et cornu, arrache à un damné une oreille avec un croc. Là encore, un autre monstre à la face camuse, aux tétines en pendeloque, au bas-ventre occupé par un masque d'homme, aux ailes soudées à la chute des reins, empoigne à plein bras un religieux et le précipite, la tête la première, dans un chaudron qui bout sur une gueule renversée de dragon, dont deux valets de Satan attisent, avec des soufflets, les flammes. Et dans ce coquemar, deux figures, symbole l'une de la médisance, l'autre de la luxure, une figure de moine et une figure de femme, se tordent et pleurent, car d'énormes crapauds dévorent au premier la langue, sucent à la seconde le sein. De l'autre côté du Saint-Michel, la scène change. Un ange, souriant et joufflu, charge sur les épaules d'un de ses compagnons et lutine un bambin qui brandit joyeux une branche. Puis, derrière lui, lentement, s'avance une théorie de saints, une femme, un roi, un cénobite, conduit par Saint-Pierre vers un porche, précédant un édicule où le vieil Abraham assis tend sur ses genoux un tablier plein de petites bêtes qui jubilent, dame sauve. Et Durtal constatait, en se remémorant la figure du Saint-Michel et de ses anges, qu'ils étaient les frères de la Sainte-Anne, du Saint-Joseph, de l'ange du portail royal de Reims. C'était en effet le même modèle étrange, le même visage jeune et vieillot, au nez encorné et au menton pointu, plus grassouillé cependant, moins anguleux peut-être qu'à Reims. Cet air de famille, cette ressemblance, permettait de croire que les mêmes imagiers ou que leurs élèves avaient travaillé aux sculptures des deux cathédrales et pas à Chartres, où aucun type analogue n'apparaissait. Alors que pourtant, certaines similitudes d'autres statues du porche nord avec quelques-uns des personnages d'un autre genre de la façade de Reims étaient frappantes. Toutes les suppositions sont possibles, et aucune n'a la chance d'être certifiée juste, car nous ne découvrons aucun renseignement sur les maîtrises des imagiers de ce temps, se dit Durtal, qui se dirigea vers la baie latérale de gauche du porche chartrain voué aux martyrs. Là, dans l'ébrasement de la porte, vivaient côte à côte saint Vincent d'Espagne, diacre, saint Denis, évêque, saint Pia, prêtre, et saint Georges, guerrier, victimes tous les quatre de la studieuse cruauté des mécréants. Saint Vincent, dans sa longue robe, penchait sur l'épaule une tête contrite. Celui-là, pensa Durtal, il a été supplicié d'une façon toute culinaire, car si j'écoute la légende de Voragine, on lui ratissa si furieusement le corps avec des peignes acérées des reins que ses boyaux sortirent. Puis, après ce hors-d'œuvre de souffrance, les cuisiniers le retirent sur un grill, le lardèrent de clous, l'arrosèrent avec la sauce de son sang. Lui demeurait immobile pendant qu'il se dorait et priait. Quand il eut expiré, Dacien, son persécuteur, ordonna de transférer son cadavre dans un champ pour qu'il fût dépecé par les bêtes. Mais un corbeau vint veiller auprès de lui et chassa à coups de bec un loup. Alors on lui attacha une meule de moulin autour du col et l'on le précipita dans la mer. Mais il aborda, près de pieuses femmes, qui l'ensevelirent. Saint Denis, premier évêque de Paris, offert en pâture à des lions qui s'éloignèrent, puis décollé à Montmartre, avec Sainte Lethaire et Saint Rustique. L'imagier ne l'avait pas représenté tenant, ainsi qu'à son habitude, sa tête, mais il l'avait dressé entier debout, crossé et mitré. et il n'était pas humble et dolent tel que son voisin le diacre d'Espagne, mais droit, impérieux, levant la main, plus peut-être pour faire une recommandation aux fidèles que pour les bénir. Et Durtal rêvait devant cet écrivain dont le livre, si court, occupait une place si importante dans la série des œuvres mystiques. Celui-là, en admettant que le volume fût de lui, avait plus que tout autre, et le premier parmi les auteurs contemplatifs, franchit les limites du ciel et rapportait quelques détails sur ce qui s'y passe aux hommes. La question des préséances angéliques datait de lui, car il avait révélé l'organisation des milices, observé un ordre, une hiérarchie qui mite l'humanité et que parodie l'enfer. Il avait été une sorte de courrier entre le firmament et la terre. Il avait été l'explorateur du patrimoine divin, comme plus tard Sainte Catherine de Gênes fut l'exploratrice des domaines du purgatoire. Moins intéressant était Pia, prêtre de Tournai, qu'un proconsul romain décapita dans cette assemblée de saints célèbres. Il était un peu le parent de province pauvre, le saint d'un diocèse. Il figurait là parce que la cathédrale possédait ses reliques, car ses historiens racontent que l'iliation de ses restes à Chartres eut lieu au IXe siècle. Saint Georges Lacoté, vêtu en chevalier du temps de Saint-Louis, tête nue, bardé de fer, armé d'une lance et d'un bouclier, en sentinelle sur un socle où était décrite la torture de la roue qu'il endura. Cette statue avait pour pendant de l'autre côté de la porte Théodore d'Héraclée, habillé d'une cotte de mailles et d'un surcot, et muni lui aussi d'un écu et d'une lance. Près de ce saint que l'on fit cuire jadis dans la ville d'Amazée, à petit feu, siégeaient Saint-Étienne, Saint-Clément et Saint-Laurent. Et le tympan développait au-dessus de la double haie de ses martyrs l'histoire de Saint-Étienne, disputant contre les docteurs et lapidé par les juifs. Et partout, sur des piliers carrés, sous la voûte du porche, des pierres s'excisaient en des figurines tourmentées de juste. Saint-Léger, Saint-Laurent, Saint-Thomas de Cantorbéry, Saint-Bâche, Saint-Quentin, d'autres encore. Et c'était un défilé de bienheureux qu'on éborgnait, qu'on calcinait, qu'on tailladait, qu'on fouettait à tour de bras, qu'on étêtait. Mais le tout était dans un pitoyable état. En les ébréchant encore de plusieurs membres, le vent et la rage des sans-culottes avaient complété le supplice de ces saints. L'abbé de droite, consacré au confesseur, s'ouvrait en une cosse immense debout, alignant sur sa paroi écartée de gauche Saint-Nicolas, archevêque de Myre, haussant une main gantée, foulant aux pieds le cruel hôtelier qui oxy les enfants dont la mort devint le sujet de tant de complaintes. Puis Saint-Ambroise, docteur de l'Église, archevêque de Milan, coiffé d'une mitre singulière en forme d'éteignoir. Saint-Léon, pape, le vainqueur d'Attila. Enfin Saint-Lomère, l'une des gloires du pays de Chartres. Celui-là était un peu, ainsi que le Saint-Piat de l'abbé de gauche, un inconnu fourvoyé dans les rangs illustres de ses saints. Très vénéré autrefois dans la Beauce, il avait mené de son vivant une existence qui pouvait se condenser en trois lignes. Après avoir gardé pendant son enfance les troupeaux, il avait été sellerier de la cathédrale, anachorète et enfin moine et abbé du monastère de Corbion, dans les forêts de l'Orne. La paroi évasée de droite logeait Saint-Martin, évêque de Tours, Saint-Jérôme, docteur de l'Église, Saint-Grégoire, pape et docteur, et Saint-Avit. Ce qui est curieux, pensa Durtal, c'est le parallélisme de cette porte. D'un côté à droite Saint-Nicolas, le grand thaumaturge de l'Orient, de l'autre à gauche Saint-Martin, le grand thaumaturge de l'Occident. Puis, en pendant, deux docteurs de l'Église, Saint-Ambroise et Saint-Jérôme, le premier souvent redondant et enflé par une prose médiocre, mais ingénieux et charmant dans ses hymnes, le second ayant vraiment dans la Vulgate créé la langue de l'Église, aéré, désinfecté ce latin du paganisme qui empestait la luxure, puait un affreux mélange de vieux bouc et de roses. En vis-à-vis, encore, deux papes, Saint-Léon et Saint-Grégoire, puis deux abbés de cloître, Saint-Lomère et Saint-Avit, qui avait été lui aussi supérieur d'une abbaye fondée dans les bois du Perche. Ces deux statues avaient été ajoutées après coup, car elles décelaient par leur tournure et par leur costume une époque plus tardive que le XIIIe siècle. Mais alors avaient-elles été substituées à d'autres, qui portraituraient les mêmes moines ou différents saints? Et le tympan exprimait à son tour l'idée de parallélisme voulu par le maître de l'œuvre. Lui aussi était dédié aux deux thaumaturges, à la réplique miraculeuse du Nord au Midi. Il relatait les épisodes de la vie de Saint-Nicolas et de Saint-Martin. Saint-Nicolas dotant les filles d'un gentilhomme qui s'apprêtait mourant de faim à les trafiquer, puis le sépulcre de cet archevêque, sécrétant une huile souveraine pour guérir les maladies. Saint-Martin offrant la moitié de son manteau à un indigent et voyant ensuite le Christ revêtu de ce manteau. Le reste du porche était aisément négligeable. l'on retrouvait dans les voussures et sur les piliers des baies la troupe des confesseurs, les neuf cœurs des anges, la parabole des vierges sages et des vierges folles, le double des 24 vieillards du portail royal, les prophètes de l'Ancien Testament, les vertus et les vices, les vierges chrétiennes, de petites statuettes d'apôtres, le tout plus ou moins endommagé, plus ou moins visible. Avec ses 183 statues et figurines, ce portail du Midi, cité par les guides comme le plus attrayant de tous, était au contraire le moins attirant des trois pour les artistes, car si l'on acceptait les glorieuses effigies de Saint Théodore et de Saint Georges, les panégyriques de ses autres habitants étaient ternes, très inférieurs au point de vue de l'art, aux sculptures de la façade du XIIe siècle, et même du portique du Nord, ce mémorial des deux livres dont la statuaire était plus barbare, mais moins docile et moins froide. Et Durtal reprenait. L'ensemble extérieur de la cathédrale de Chartres peut se résumer en trois mots. Latrie, hyper du lit, du lit. Latrie, culte de Notre Seigneur, au porche royal. Hyper du lit, culte de la Sainte Vierge, au porche du Septentrion. Du lit, culte des saints, au porche du Sud. Car en somme, bien que le Rédempteur soit magnifié sur ce portail du Sud, en sa qualité de juge suprême, il semble céder quand même un peu sa place aux saints. Et cela se comprend puisqu'il est là quasiment en double emploi et que son véritable palais, son véritable trône, est dans le tympan triomphal du portique d'honneur, du portail royal. Et avant de s'éloigner de cette façade, jetant un dernier coup d'œil sur ses délus, Durtal s'arrêtait devant Saint Clément et Saint Grégoire. Saint Clément, dont la mort extraordinaire fait presque oublier une vie tout entière à donner à hercer les âmes. Et Durtal se rappelait le récit de Voragine. Après avoir été exilé sous le règne de Trajan, en Chersonèse, Clément est jeté, avec une ancre au cou, dans la mer. Tandis que l'assemblée des chrétiens, agenouillée sur le rivage, demande au ciel de conserver son corps. Et la mer recule de 3000. Et les fidèles gagnent à pied sec une chapelle que les anges viennent d'édifier sous les vagues et dans laquelle le cadavre du saint repose sur un tombeau. Et durant plusieurs siècles, la mer se retire, ainsi, pendant une semaine, chaque année, afin de permettre aux pèlerins de visiter ses reliques. Saint Grégoire, le premier moine bénédictin nommé pape, le maître de la liturgie, le créateur du plein chant. Il fut à la fois éperdu de justice, fou de charité, passionné d'art, cet admirable pape, à l'esprit si compréhensif, si large, qu'il considérait ainsi qu'une tentation démoniaque, le désir que les cagots, que les pharisiens de son temps, manifestaient de ne point lire la littérature profane, parce que, disait-il, celle-là nous aide à comprendre l'autre. Sacré contre son gré, pontife, il traîne une vie torturée par l'angoisse, pleure le repos quitté du cloître, et n'en lutte pas moins avec une incroyable énergie contre les assauts des barbares, les hérésies de l'Afrique, les intrigues de Byzance, la simonie des siens. Il surgit au fond des âges, dans un sabbat de schisme qui vocifère, et l'on l'aperçoit aussi au milieu de ses tourmentes, abritant contre la rapacité des riches les pauvres, qu'il nourrit de sa main et dont il baise les pieds chaque jour. Et dans cette existence surmenée, sans un moment de détente, il parvient à restaurer la discipline monastique, à semer partout où il le peut le germe bénédictin, à sauver le monde qui s'égare par la vigie des cloîtres. S'il ne fut pas martyrisé comme Saint Clément, il mourut cependant pour le Christ d'épuisement et de fatigue, ayant vécu dans la continuelle souffrance d'un corps miné par les maladies, débilité par les macérations volontaires et par les jeûnes. C'est sans doute pour cela que la face de sa statue est si pensive et si triste, se dit Durtal. Et pourtant elle écoute la colombe, symbole de l'inspiration, qui lui chuchote à l'oreille et lui dicte, d'après une ancienne légende, les mélodies de l'antiphone, et lui souffle certainement aussi ses dialogues, ses homélies, ses commentaires sur le livre de Job, son pastoral, toutes ses œuvres dont le retentissement fut immense au Moyen-Âge. Et, en retournant vers son logis, Durtal, songeant encore au défilé de ses justes, se fit tout à coup cette réflexion. Il manque à Chartres le portrait d'un saint dont l'assistance fut jadis plus que celle de tout autre envié, Saint Christophe, qui se tenait d'habitude à l'entrée des cathédrales, juché seul en un lieu à part. Tel, il saillait naguère à l'entrée de Notre-Dame de Paris, et tel, il s'exhibe encore en un coin de la façade principale d'Amiens. Mais presque partout, les iconoclastes l'ont détruit, et l'on peut compter les églises où maintenant la statue du porte-Christ se montre. Elle séjourna sûrement à Chartres, oui, mais dans quel endroit? Les monographes de la basilique n'en parlent point. Et en cheminant, il se plaisait à penser à ce saint, dont la popularité s'explique car nos pères croyaient qu'il suffisait de regarder son image, sculptée ou peinte, pour être protégé pendant toute la journée de catastrophes, surtout de la malemort. Aussi émergeait-il en dehors, bien en évidence, en bonne place, énorme, de façon à pouvoir être aperçu, même de loin, par les passants. D'autrefois, son portrait s'étendait gigantesque dans l'intérieur de l'église. Ainsi le voit-on au dôme d'Erfur, dans une fresque du XVe siècle, trop réparée. Cette figure monstrueuse, haute de 5 étages, va des dalles du sanctuaire aux voûtes. Christophe a une barbe qui coule à torrents et des jambes aussi grosses que des piliers de nef. Il porte, adorant et courbé sur ses épaules, un enfant à tête ronde qui bénit en souriant, avec une mine enfarinée de pierrot, les visiteurs. Et lui patauge pieds nus dans un étang, plein de petits roseaux, de diablotins, de poissons cornus, de fleurettes étranges, le tout minuscule pour mieux exagérer encore la statue colossale du saint. Ce pauvre ami, ruminait Durtal, il fut vénéré par le peuple, mais un peu tenu à l'écart par l'Église, car il est avec saint Georges et quelques autres martyrs, de ceux dont la biographie suggère bien des doutes. Saint Christophe fut invoqué pendant le Moyen-Âge pour la guérison des enfants langoureux et aussi pour la cécité et la peste. Au reste, les saints ne furent-ils pas les vrais thérapeutes de ces temps? Toutes les maladies que les médecins, que les mires, ne pouvaient soulager leur étaient confiées. D'aucuns même étaient réputés tels que des spécialistes, et les maux qu'ils traitaient étaient désignés par leur nom. La goutte s'appelait mal de Saint-Maur, la lèpre mal de Saint-Job, le cancer mal de Saint-Gilles, la corée mal de Saint-Guy, le rhume mal de Saint-Aventin, le flux de sang mal de Saint-Fiacre, et j'en oublie. D'autres sont encore demeurés célèbres par la délivrance de certaines affections dont la cure leur était dévolue. Sainte Geneviève pour le mal des ardents et les ophtalmies. Sainte Catherine d'Alexandrie pour les migraines. Sainte Reine pour les maladies secrètes. Saint Barthélemy pour les convulsions. Saint Firmin pour les crampes. Saint Benoît pour les érésipèles et pour la pierre. Saint Loup pour les douleurs d'entrailles. Saint Hubert pour la rage. Saint Apolline, dont une statue existe dans la chapelle de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, ornée en guise d'ex-voto, de chapelet de molaires et de chicots de cire, pour les névralgies faciales et les maux de dents, et combien d'autres. Étant donné, conclut Durtal, qu'à l'heure actuelle la médecine est devenue plus que jamais un leurre, je ne vois pas pourquoi l'on n'en reviendrait point aux spécifiques des oraisons, aux panacées mystiques d'antan. Si les saints intercesseurs se refusent, en certains cas, à nous guérir, ils n'aggraveront pas au moins notre état en se trompant de diagnostic. Et en nous faisant ingérer de périlleux remèdes. Et d'ailleurs, quand bien même les praticiens de notre temps ne seraient pas ignares, à quoi cela servirait-il, puisque les médicaments qu'ils pourraient utilement prescrire sont frelatés?